Moïse a maintenant 80 ans. Voilà 40 ans qu'il a fui l'Égypte, 40 ans qu'il vit au pays de Madian, 40 ans qu'il a sans doute tourné la page de la délivrance de son peuple opprimé en Égypte. En effet, 40 ans plus tôt, Moïse avait essayé d'apporter par lui-même la délivrance aux Hébreux. Il avait essayé de les convaincre que Dieu allait se servir de lui. Et nous pouvons lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 7, verset 25, comment Moïse pensait que ses frères hébreux comprendraient que Dieu leur donnait le salut par son entreprise. Mais ils ne l'ont pas compris. Et ils l'ont même rejeté. Et Moïse, dont la tête avait été mise à prix par le Pharaon, avait dû fuir l'Égypte. Si Moïse semble avoir tourné la page en ce qui concerne la délivrance de son peuple, ce n'est pas le cas de Dieu. Dieu qui va se révéler à Moïse, qui va l'appeler à retourner en Égypte afin d'être l'instrument de la délivrance de son peuple. À l'horloge divine, l'heure de la délivrance, l'heure de la libération a sonné. Une libération que Dieu avait déjà promise à Abraham. Une libération qu'il est maintenant sur le point d'accomplir. Et pour ce faire, Dieu appelle Moïse et l'envoie vers son peuple. Moïse aurait pu sauter sur l'occasion, il aurait pu sauter au plafond. Après tout, il avait certainement désiré ce moment. Il l'avait peut-être même attendu. Et voilà que Dieu le lui offre sur un plateau. Et que fait Moïse ? Il hésite. Il questionne. Il tergiverse. Il doute. Il cherche et trouve des excuses. Alors la dernière chose que je voudrais faire ce matin, dans ce quatrième volet de notre série sur la vie de Moïse, c'est de jeter la pierre à Moïse. Pourquoi ? Parce que ce serait me jeter la pierre à moi-même. Ce serait vous jeter la pierre. Parce que comme nous allons le voir, nous ressemblons quand même pas mal à Moïse. Et Moïse nous ressemble. Et en considérant ses réticences, ses excuses, ses questions, nous allons parfois nous trouver comme devant un miroir. Et puis, je ne veux pas jeter la pierre à Moïse parce que certaines de ses questions ou de ses réticences semblent tout à fait légitimes. Il était tout sauf facile ou évident pour Moïse de retourner en Égypte. Il faut souligner ici que nous avons un handicap devant le texte de ce matin, comme d'ailleurs souvent devant les textes de la Bible. Nous connaissons la fin de l'histoire. Et donc, nous avons tendance à banaliser la décision que Moïse doit prendre. Nous avons tendance à minimiser les difficultés que cette décision pourrait engendrer pour Moïse. Souvenons-nous que Moïse est maintenant un homme âgé, un homme qui a dépassé le temps des aventures. Un homme qui aspire sans doute légitimement à profiter de ses derniers jours en faisant sauter ses petits-enfants sur ses genoux. Souvenons-nous aussi que la tête de Moïse est sans doute encore mise à prix en Égypte, même si le pharaon qui l'a connu est mort. Retourner en Égypte, pour Moïse, c'est prendre un risque, c'est mettre sa vie en danger. Retourner en Égypte pouvait s'apparenter pour Moïse à une mission suicide. Souvenons-nous encore que le pays de Madian est loin de l'Égypte. Au plus près, Moïse a 300 km, voire jusqu'à 400 km, à faire en sens inverse en traversant un désert terrible. C'est tout sauf une partie de plaisir à envisager. Souvenons-nous toujours que Moïse connaît bien l'Égypte, connaît bien les coulisses du pouvoir, connaît bien la magie qui entoure le pouvoir et tous les cultes égyptiens. Retourner en Égypte, c'est faire face à cela, c'est confronter cette magie et ces magiciens, comme nous le verrons plus tard dans le récit. Souvenons-nous enfin que Moïse a tourné la page, à l'évidence. Cela fait 40 ans qu'il a quitté l'Égypte, 40 ans qu'il a tout quitté, qu'il a fondé une famille au pays de Madian. Sa vie est là maintenant, en Madian. Et Dieu lui demande de retourner en Égypte. C'est à nouveau, pour Moïse, tout perdre. Quand nous prenons le temps d'y réfléchir, retourner en Égypte était tout sauf évident pour Moïse, tout sauf facile. Et nous devons nous garder d'aller trop vite dans notre lecture du récit, au risque de ne pas bien mesurer la difficulté du choix que Moïse devait prendre, au risque de ne pas bien comprendre les éléments qu'il a dû mettre sur la balance pour répondre à l'appel de Dieu. Nous n'allons donc pas jeter la pierre à Moïse ce matin, mais nous allons essayer de comprendre son cheminement. Nous allons essayer de le comprendre au travers des différentes questions qu'il pose à Dieu, au travers des différentes réticences ou excuses qu'il met en avant. Une dernière chose avant de lire le passage de ce matin. Comprendre ou essayer de comprendre ne veut pas dire forcément donner raison à Moïse. Il y a des fois où ces questions semblent légitimes et d'autres fois, elles le semblent un peu moins. Et puis il y a tout ce que Dieu dit ou fait pour rassurer Moïse, pour le convaincre. Et des fois, nous avons le sentiment que Moïse fait un peu la sourde oreille. Tout ceci pour dire que Moïse n'est ni blanc ni noir dans notre texte que nous allons lire maintenant. Les choses sont beaucoup plus mêlées pour Moïse, comme elles le sont souvent d'ailleurs pour nous aussi. Et je vous invite donc maintenant à lire avec moi le texte. Nous commençons au chapitre 3, verset 9 du livre de l'Exode. Nous lisons jusqu'au verset 15. On zappe la fin du chapitre et on reprend au début du chapitre 4 jusqu'au verset 17. Exode 3, versets 9 à 15 et 4, 1 à 17. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant va, je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu diras aux Israélites, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob qui m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour toujours, c'est mon nom tel qu'on l'évoquera de génération en génération. Nous sautons donc au début du chapitre 4. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » Le Seigneur lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » Il dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre, et le bâton devint un serpent. Moïse se mit à fuir pour lui échapper. Le Seigneur dit à Moïse, « Tends ta main et saisis-le par la queue. » Il tendit la main et le saisit. Le serpent redevint un bâton dans sa main. C'est afin qu'ils croient que le Seigneur, le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, t'est apparu. Le Seigneur lui dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine, je te prie. » Il mit sa main sur sa poitrine, puis il la ressortit. Sa main était couverte de lèpre, elle était blanche comme la neige. Il dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis il la ressortit. Elle était redevenue comme le reste de sa chair. S'ils ne te croient pas et ne prêtent pas attention au premier signe, ils croiront à ce dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du Nil, tu la répandras sur la terre ferme, et l'eau que tu auras prise du Nil se changera en sang sur la terre ferme. » Moïse dit au Seigneur, « Pardon Seigneur, mais je ne suis pas un homme à la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu me parles. À moi ton serviteur, j'ai la bouche et la langue pesantes. » Le Seigneur lui dit, « Qui a donné une bouche à l'être humain ? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle ? N'est-ce pas moi le Seigneur ? Maintenant va, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Moïse dit, « Pardon Seigneur, je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre, qui tu voudras ? » Alors le Seigneur se mit en colère contre Moïse. Il dit, « N'y a-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite ? Je sais qu'il parle facilement d'ailleurs. Il vient lui-même à ta rencontre. Quand il te verra, son cœur se réjouira. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. Il parlera pour toi au peuple. Il sera ta bouche et tu seras son Dieu. » Petit dé. Prends ce bâton avec lequel tu produiras les signes. » Dieu se révèle donc à Moïse et il le charge de la mission de retourner en Égypte pour dire à Pharaon de libérer le peuple hébreu, son peuple. Verset 10, « Maintenant, va, je t'envoie auprès du Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Dans tout le passage que nous venons de lire, Moïse s'exprime en tout à 5 reprises. Ce sont 5 paroles de Moïse qui forment le socle du dialogue qui s'instaure entre Moïse et Dieu ou entre Dieu et Moïse. 5 paroles que nous allons prendre dans l'ordre, l'une après l'autre. Et la première de ces paroles se trouve ici au verset 11, où Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je ? » Qui suis-je ? Si 40 ans plus tôt, Moïse pensait être à la hauteur de la tâche, ce n'est à l'évidence plus le cas. 40 ans dans le désert, ça vous change un homme. Moïse semble avoir perdu bien des illusions sur lui-même. Il semble avoir compris que le costume de libérateur qu'il avait enfilé 40 ans plus tôt est bien trop grand pour lui. Et on devine derrière la question de Moïse, « Qui suis-je ?» toute l'humilité que Moïse a acquise au désert. Il semble maintenant conscient de ses faiblesses. Peut-être est-il hanté par le souvenir des erreurs du passé. Il est toujours difficile de se relever après un échec. Et la solution du dénigrement de soi s'offre souvent à nous comme la solution de facilité. Quoi qu'il en soit, Moïse ne se sent pas ou plus à la hauteur. Mais que répond Dieu à cette question de Moïse? Verset 12, Dieu dit, « Je serai avec toi, et voici quel sera pour toi le signe, etc. » Bien sûr que le costume est trop grand pour Moïse. Bien sûr que Moïse n'est pas à la hauteur de la tâche. Mais là n'est pas le plus important. Le plus important dans cette histoire de libération, c'est Dieu. Pas Moïse, c'est la puissance de Dieu, c'est la présence de Dieu. « Je serai avec toi, dit Dieu. Toi, tu n'es pas à la hauteur, Moïse, mais moi, oui. Toi, tu n'as pas les capacités, Moïse, mais moi, oui, et je serai avec toi. Au service, la question « Qui suis-je ?» au service de Dieu, la question « Qui suis-je ?» peut être légitime quand elle n'est pas de la fausse humilité. Elle était, je crois, légitime ici pour Moïse, pour toutes les raisons que nous avons évoquées précédemment. Et elle l'était peut-être aussi parce que Moïse avait peut-être compris à tort que Dieu lui demandait de se débrouiller tout seul, que Dieu lui demandait d'y aller avec ses propres forces. C'est un peu à la décharge de Moïse ce que l'on peut comprendre au verset 10. Quand Dieu dit « Maintenant va, je t'envoie auprès du Pharaon, fais sortir. » Allez, vas-y Moïse, débrouille-toi. « Fais sortir d'Égypte, mon peuple, les Israélites. » C'est un peu ambigu. Aussi légitime soit-elle, cette question de Moïse souligne que son regard est entièrement focalisé sur lui-même. Or, ce qui compte au service du Seigneur, ce n'est pas premièrement nous, mais le Seigneur, ce ne sont pas premièrement nos forces, mais celles ou nos capacités, mais celles de Dieu. Et c'est Dieu qui va délivrer son peuple. Moïse, lui, ne sera qu'un instrument dans les mains de Dieu. Et ça, Dieu l'avait dit à Moïse avant ce verset 10 un petit peu ambigu. Au verset 7 et 8, il avait dit « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple, j'ai entendu les cris, je connais les douleurs, je suis descendu pour le délivrer, dit Dieu. Je suis descendu, pas toi Moïse, c'est moi qui descends pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens. » Oui, c'est Dieu qui va accomplir la délivrance, pas Moïse. Et après l'assurance de sa présence, Dieu va donner à Moïse l'assurance de la délivrance en parlant ici au verset 12 de la sortie d'Égypte comme de quelque chose d'acquis. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Mes amis, il y a un parallèle intéressant ici que j'aimerais faire maintenant. Avec nous, si nous sommes chrétiens, si nous suivons le Christ. Si c'est le cas, Dieu nous appelle aussi à le servir. Bien sûr, il ne nous confie pas la mission d'aller délivrer physiquement un peuple opprimé quelque part dans le monde, mais d'annoncer le salut qui est en Jésus-Christ. D'annoncer la libération de l'oppression, de l'esclavage, du péché. Souvenez-vous des paroles de Jésus à ses disciples avant de les quitter. « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les, etc. » Faire de toutes les nations des disciples. N'est-ce pas là aussi une mission qui nous dépasse ? N'est-ce pas là aussi une mission qui nous fait écrier comme Moïse, « Qui suis-je, Seigneur, pour que tu me demandes une telle chose ?» Ou alors comme l'apôtre Paul, « Qui est suffisant pour ces choses, Seigneur ?» Et pour nous aussi, le piège existe de croire que tout dépend de nous. Il est tellement facile de tout ramener à soi. Et alors la question « Qui suis-je » ou « Qui est suffisant ?» devient complètement approprié. Mais si Dieu nous envoie, il nous envoie comme des instruments dans sa main. Lui seul a le pouvoir de transformer les vies, pas nous. Lui seul a le pouvoir de faire passer quelqu'un des ténèbres à son admirable lumière, pas nous. Si nous semons et si nous arrosons, c'est Dieu qui fait croître. Écoutez ce que Jésus disait avant et après avoir confié cette grande mission d'évangélisation à ses disciples. Jésus s'approcha et leur dit, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, allez, faites des nations, etc. » Puis au verset 20, « Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Oui, le Christ nous envoie. Mais c'est lui qui a le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Oui, le Christ nous envoie, mais c'est parce qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, que nous pouvons nous engager avec confiance dans l'œuvre d'évangélisation que Dieu nous a confiée. La question qui suit est peut-être légitime, mais elle traduit une mauvaise perspective des choses. Il faut que nous arrêtions de regarder notre nombril et que nous levions les yeux. Ce qui compte avant tout pour accomplir la volonté de Dieu, ce n'est pas qui nous sommes, ce n'est pas les capacités que nous avons, mais c'est qui est Dieu et le fait qu'il est avec nous pour accomplir au travers de nous sa volonté. Comme le disait saint Augustin, je crois, Dieu donne ce qu'il ordonne et il couronne ce qu'il donne. Dieu donne ce qu'il ordonne, je crois l'avoir mis. Dieu donne ce qu'il ordonne et il couronne ce qu'il donne. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons nous engager comme Moïse avec confiance sur le chemin du service. La deuxième parole que j'aimerais considérer maintenant se trouve au verset 13. Moïse dit à Dieu, « Supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je ? » À l'évidence, Moïse n'est pas encore prêt à partir. Il progresse, il chemine, mais il reste encore du chemin à parcourir. La question que Moïse pose ici à Dieu est spécifique. Elle concerne le nom de Dieu. Que dirais-je aux Israélites s'ils me demandent ton nom ? Nous avons parlé la dernière fois du nom de Dieu, du nom que Dieu révèle à Moïse suite à cette question, et je ne vais pas maintenant revenir en détail là-dessus. Moïse demande « Qui suis-je » et Dieu lui répond « Je suis ». Moïse demande « Quel est son nom ?» s'il me le demande, et Dieu lui répond « Je suis ». « Je suis celui qui est ». Tu n'es peut-être pas grand-chose, Moïse, mais je suis, dit Dieu. Je suis le Dieu qui est de toute éternité et qui est avec toi. Je suis le Dieu qui n'a ni commencement ni fin et qui est avec toi. Je suis le Dieu qui ne change pas et qui est avec toi. Je suis le Dieu qui se suffit à lui-même et qui est avec toi. Je suis le Dieu qui t'envoie, qui a les moyens d'accomplir ce qu'il ordonne, et je suis avec toi. Je suis non seulement le Dieu de tes pères, dit Dieu à Moïse, mais aussi et surtout le Dieu qui est au-dessus de tout et de tous, et je suis avec toi. En se présentant comme je suis et en rappelant qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu se présente aussi à Moïse comme le Dieu crédible, le Dieu fiable, le Dieu sur qui on peut toujours compter et qui tient toujours ses promesses, les promesses qu'il a faites à ses pères. La question que Moïse pose ici à Dieu me fait penser à toutes les questions que nous pouvons parfois nous poser nous-mêmes ou que nous pouvons parfois poser à Dieu avant de répondre positivement à l'appel du service. Nous posons des questions et nous voulons des réponses. Et nous voulons nous engager que si nous avons les réponses. Allez, faites de toutes les nations des disciples, allez témoigner de l'amour de Dieu, d'accord, disons-nous, très bien. Mais que dirais-je quand on me demandera ce que je pense de la GPA, de la gestation pour autrui? Que dirais-je quand on me demandera ce que je pense du mariage pour tous? Que dirais-je quand on me demandera ce que je pense des évangéliques aux États-Unis et de leur lien avec Donald Trump? Que dirais-je quand on me demandera ce que je pense des 6 jours de 24 heures de la création? Que dirai-je quand on me posera des questions sur la bonté de Dieu, les famines, les guerres, les injustices? Et j'en passe. Il y a beaucoup de questions difficiles auxquelles nous n'avons pas toujours de réponse, auxquelles il n'y a souvent pas de réponse simple, ou en tout cas pas de réponse toute faite. Et la perspective de ne pas avoir les réponses, toutes les réponses, peut nous paralyser, peut nous empêcher de nous lever et répondre à l'appel du service. Bien sûr, il est important de pouvoir entrer en dialogue avec nos contemporains et de pouvoir répondre, chercher à répondre aux questions qu'ils se posent. Bien sûr, il est important d'essayer de trouver des réponses qui sont cohérentes avec notre foi. Cela nous rassure d'avoir des réponses. Mais réfléchissons bien à la question suivante. Qu'est-ce qui convainc quelqu'un de suivre le Christ? Est-ce le fait que j'ai toutes les réponses à ces questions, ou est-ce autre chose? Celui qui convainc, ce n'est pas nous. Aussi convaincant que nous puissions être, c'est le Saint-Esprit. Souvenez-vous de ce que Jésus disait. Alors, décidément, je n'ai pas mis le bon fichier. Souvenez-vous de ce que Jésus disait à ses disciples peu avant de les quitter en parlant de la venue du Saint-Esprit. Quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Celui qui convainc de péché, c'est pas nous, c'est pas nos arguments, c'est pas nos réponses, c'est pas notre éloquence. Celui qui touche les cœurs en profondeur et qui convainc de justice et de jugement, c'est le Saint-Esprit, c'est pas nous. Alors bien sûr, Dieu se sert de nous pour cela. Il se sert même de notre connaissance, il se sert même de nos réponses aux questions qu'on peut nous poser. Bien évidemment, mais ne pensons pas que parce que nous n'avons pas toutes les réponses, que cela va limiter Dieu dans ce qu'il peut faire avec le cœur de quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'avoir réponse à tout pour répondre à l'appel du service pour Dieu, car c'est Dieu qui touche les cœurs et pas moi. Après avoir répondu à Moïse en donnant son nom, Dieu va lui donner l'instruction, et c'est le passage qu'on n'a pas lu, il va lui donner l'instruction de rassembler les anciens, de parler avec eux, et ensuite d'aller voir Pharaon avec les anciens. Il leur dit que Pharaon ne va pas les écouter, il ne va pas leur permettre de partir 3 jours pour offrir des sacrifices, etc. Et qu'ensuite Dieu frappera l'Égypte en faisant toutes sortes de choses étonnantes, et qu'alors là, le Pharaon les laissera partir, et ils ne partiront pas les mains vides. Tout ça, c'est le résumé de la partie que nous n'avons pas lue. Et nous arrivons au début du chapitre 4 avec la troisième parole de Moïse. Elle se trouve au verset 1 de ce chapitre 4. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, ils diront, le Seigneur ne t'est pas apparu. » À qui Moïse fait-il allusion ici? Aux anciens dont il vient de parler dans les versets qui précèdent. Aux anciens qu'ils doivent voir avant d'aller voir Pharaon avec eux. Alors peut-être que Moïse, ici, se rappelle ce qui s'est passé 40 ans plus tôt, quand les Hébreux à qui il s'était adressé et qu'il avait cherché à convaincre, l'avait rejeté, ne l'avait pas cru. Il y a des rejets qui ont la vie dure. Il y a des rejets qui nous collent à la peau. Il y a des rejets qui nous poursuivent et qui nous hantent toute notre vie. Est-ce pour cela que Moïse a pensé qu'il ne le croirait pas, qu'il ne l'écouterait pas, qu'il l'accuserait même de menteur en disant « Dieu ne t'est pas apparu ?» Est-ce parce qu'il est maintenant un vieux berger qui ne paye pas de mine, le teint tanné et buriné par toutes ces années dans le désert. Tout cela est possible. Mais le déterminer n'est pas important pour avancer dans la compréhension du texte. Moïse a sans doute peur de ne pas être crédible, pas assez crédible. Peut-être a-t-il peur du ridicule, imaginez-le, arriver là, le berger à la cour de Pharaon. Peut-être a-t-il peur de ne pas être pris au sérieux. Peut-être a-t-il peur d'être pris pour un fou. Peut-être a-t-il simplement peur d'être à nouveau rejeté. Personne ne court après toutes ces choses que je viens d'énumérer. Et nous pouvons comprendre que Moïse, même si cette troisième objection commence à ressembler à de l'incrédulité, que Moïse n'a toujours pas trop envie d'y aller. Je dis « commence à ressembler à de l'incrédulité » parce que juste avant, au verset 18, qu'est-ce que Dieu avait dit ? Il avait dit « ils t'écouteront, ils t'écouteront ». Moïse répondit « ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas, ils diront « le Seigneur ne lui est pas apparu ». Dieu va ici, en réponse à cette nouvelle objection, lui donner d'une certaine manière trois lettres de recommandation, trois signes, trois prodiges qui vont lui ouvrir les portes que Moïse pense fermer. Je ne rentre pas dans les détails, il y a le bâton qui devient serpent, verset 3-5, puis la main lépreuse qui redevient pure, verset 6-7, et enfin le signe de l'eau changée en sang, verset 8-9. Et en donnant à Moïse de réaliser ces prodiges, Dieu l'équipe pour qu'il soit crédible auprès du peuple et puis ensuite auprès de Pharaon, afin qu'il croie, dit le texte. Et la question qui s'est imposée à moi ici est la suivante, et pour nous. Quelle est la crédibilité du message que nous annonçons ? Qu'est-ce qui fait que ce que nous disons de Dieu, de la foi, est crédible ou pas ? Et la tentation de croire que notre message doit être accompagné de prodiges pour être crédible est grande pour certains. Et nous pouvons constater depuis quelques décennies, dans le monde évangélique, au niveau mondial, toutes sortes de courants qui affirment que la proclamation de l'Évangile pour être crédible doit être accompagnée de signes et de miracles. Est-ce ainsi que les choses doivent se produire ? Est-ce vraiment là le message du Nouveau Testament ? Alors oui, ça s'est passé ainsi au temps des apôtres. Nous ne pouvons pas approfondir maintenant, c'est une vaste question, mais j'ai pensé ici rapidement à deux textes. Le premier se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. Décidément. Tu arrives à me le passer manuellement ou pas ? Ah, merci. Jean 13, verset 35, c'est Jésus qui parle et qui dit « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples » si vous faites des miracles en abondance. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Qu'est-ce qui nous rend crédibles d'après ces paroles de Jésus aux yeux des autres, et surtout qu'est-ce qui crédibilise notre message ? Elle dépend en partie, en tout cas ici, de notre amour les uns pour les autres. Combien nous devons chérir et veiller au témoignage de notre amour fraternel. Nous n'imaginons pas ce que Dieu peut faire avec notre amour les uns pour les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Puis le deuxième texte, c'est encore une parole de Jésus, si tu veux encore la passer manuellement, parce que là je crois que j'ai perdu définitivement le contrôle. C'est dans la prière dite sacerdotale, Jésus dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux étant en moi pour qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Qu'est-ce qui contribue à ce que le monde connaisse? C'est le témoignage de notre unité, dit Jésus, de notre unité. Et là aussi, nous devons chérir et veiller à la paix et à l'harmonie entre nous, au sein de l'Église et puis avec tous celles et ceux qui partagent notre foi. La crédibilité du message de l'Évangile en dépend. J'avance, quatrième parole. Michael, tu avances pour moi, s'il te plaît, merci. La quatrième parole a des points de contact, je serai rapide, avec celle que nous venons d'évoquer. Verset 10, Moïse dit à Dieu, « Pardon Seigneur, mais je ne suis pas un homme à la parole facile, ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni depuis que tu me parles, à moi ton serviteur, j'ai la bouche et la langue pesante. » Il est question ici d'éloquence, de facilité à parler. Littéralement, et c'est bien traduit ici, Moïse dit qu'il a la bouche et la langue pesante. Il n'arrive pas bien à parler, hein, il est empâté. Où est le Moïse puissant en parole? Vous vous souvenez de ce texte d'Acte 7? À l'évidence, Moïse a perdu de son assurance, de son éloquence. Alors il est vrai que depuis 40 ans, il a sans doute eu devant lui plus souvent du bétail que des humains, et ça n'aide pas à travailler l'éloquence. L'essentiel de ce que nous avons dit ici sur la crédibilité de notre message peut s'appliquer ici parce que l'éloquence est une forme de crédibilité pour certains. Qu'est-ce qui peut convaincre le non-chrétien de la véracité de l'Évangile ? Nous avons vu que ce n'est pas le fait d'avoir des réponses à toutes les questions. Nous avons vu que ce ne sont pas les prodiges qui peuvent accompagner la proclamation de l'Évangile. Et nous disons ici de la même manière que ce n'est pas l'éloquence de celui qui prêche ou de celui qui témoigne et qui donne toutes les réponses ou pas aux questions qui sont posées. Alors bien évidemment, l'éloquence est une bonne chose. C'est plus agréable d'écouter quelqu'un qui sait parler que le contraire, bien évidemment. Mais quand il s'agit du salut, Dieu n'a pas besoin de notre éloquence pour toucher les cœurs. Il peut s'en servir, et il s'en sert parfois, mais il peut aussi s'en passer. Souvenons-nous de ce que Paul disait aux Corinthiens à ce sujet. « Pour ma part, mes frères, dit-il, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu, car j'ai jugé bon parmi vous de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ suffisant, crucifié. Moi-même, j'étais chez vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma proclamation n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. C'était une démonstration d'esprit, de puissance, pour que votre foi ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. » Tout est dit. La parole et la proclamation de l'apôtre Paul ne reposaient pas sur une éloquence quelconque, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Il y aurait des choses à dire, mais j'avance. Quand nous avons dit ça, nous n'avons pas tout dit. Et nous devons veiller à ce que notre dépendance à Dieu, hein, c'est pas mon éloquence, c'est lui qui fait tout, nous devons veiller à ce que notre dépendance à Dieu, qui est une bonne chose, ne devienne pas une excuse ou un prétexte à la paresse ou au manque de sérieux dans la préparation de notre service. La préparation de ce que nous avons à dire quand nous prenons la parole, les réponses que nous apportons peut-être à un collègue de travail quand il nous a posé une question, ce n'est pas parce que c'est Dieu qui fait tout et que les réponses ne sont pas si importantes que je ne vais peut-être pas ouvrir mon dictionnaire de théologie ou mon dictionnaire biblique pour essayer un petit peu de comprendre mieux les choses. Nous devons toujours faire tous nos efforts pour faire au mieux. Mais nous ne devons jamais penser que l'œuvre du Seigneur dépend premièrement et uniquement de nos efforts. L'efficacité vient toujours du Seigneur, qui parfois se plaît à bénir l'éloquence et qui parfois se plaît à bénir là où elle n'est pas. Moïse s'est abrité derrière son manque d'éloquence pour ne pas servir le Seigneur. Et nous, derrière quoi nous abritons-nous? Il est tellement facile de trouver des excuses, des raisons pour ne pas répondre à l'appel que Dieu nous adresse. Seigneur, mais tu sais bien que je suis trop timide. Seigneur, tu sais que je suis trop jeune. Tu sais que je suis trop vieux, Seigneur. Tu sais que je ne parle pas bien le français. Seigneur, tu sais que je n'ai pas fait vraiment beaucoup d'études. Seigneur, tu sais que j'ai un travail tellement prenant. Seigneur, tu sais que mon conjoint n'est pas converti. Seigneur, 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 nous en avons des excuses pour ne pas répondre à l'appel du service. Et nos objections sont parfois vraies, réelles, fondées. Il ne s'agit pas de nier cela. Mais là n'est pas la question. La question n'est pas de savoir si je suis éloquent ou pas, timide ou pas, jeune ou pas, vieux ou pas. Ce n'est pas ça la question. La question est de savoir si je suis disponible ou pas. La question est de savoir si je suis désireux de servir le Seigneur ou pas. Et si je le suis, alors que je sois timide, vieux, jeune, éloquent ou pas, Dieu saura se servir de moi pour accomplir sa volonté. Que répond Dieu à Moïse? On peut mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Versets 11 et 12, le Seigneur lui dit, « Qui a donné une bouche à l'être humain et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi le Seigneur? Maintenant va, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Je paraphrase ce que Dieu dit ici. « Bien sûr que je connais tes limites, Moïse. Bien sûr que je sais que tu as la langue toute pâteuse. » C'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui ai fait ta langue, Moïse. Mais va et fais-moi confiance. Je te donnerai ce dont tu auras besoin. Je serai moi-même avec ta bouche. Dieu appelle Moïse à lui faire confiance. Moïse n'est pas éloquent, mais peu importe. Peu importe parce que Dieu s'engage avec Moïse, il sera sa bouche et il lui enseignera ce qu'il devra dire. La dernière parole de Moïse est sans doute la moins légitime de toutes. Donc là, on a complètement perdu, désolé, la projection. Elle est sans doute la moins légitime de toutes et d'ailleurs, Dieu ne s'y trompe pas parce que Dieu va se mettre en colère après cette dernière objection de Moïse. Verset 13, Moïse dit, « Pardon Seigneur, je t'en prie, envoie quelqu'un d'autre, qui tu voudras. Me voici Seigneur, mais envoie-lui, ou envoie-elle. » Et là, on a vraiment le sentiment que Moïse arrive au bout de ses arguments. Et peut-être même que Moïse n'a finalement pas trop envie de retourner en Égypte. Envoie qui tu voudras, Seigneur. Seigneur, qui tu voudras, mais pas moi. Et ce qui est intéressant ici dans le texte hébreu, c'est que Moïse n'utilise pas comme il l'a fait jusqu'ici le nom Yahvé, l'Éternel que Dieu vient de lui révéler. Mais il dit Adonai, Seigneur. Quelle ironie. Moïse appelle Dieu Seigneur. Mais il n'est pas prêt à se soumettre à sa seigneurie. Et là aussi, combien je ressemble à Moïse, combien nous ressemblons à Moïse, combien il nous est facile de dire Seigneur, de chanter Seigneur, de prier Seigneur. Mais Dieu est-il réellement le Seigneur de ma vie? Celui devant qui j'ai plié le genou? Comme le disait un vieil officier de l'armée du salut que j'ai un peu connu avant d'arriver à Nîmes, Il disait ceci, si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. C'est peut-être un peu excessif, je ne sais pas, mais ça fait réfléchir. Si le Seigneur n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Dieu va donner Aaron à Moïse, nous verrons tout ça la prochaine fois. Et je termine en synthétisant un petit peu certaines choses. En tout cas, je pose la question, que nous a appris ce dialogue entre Moïse et Dieu? Beaucoup de choses. Nous en avons vu certaines, nous n'avons pas tout considéré. Et j'aimerais juste souligner une dernière chose qui servira de conclusion. Et je la formule ainsi, Dieu nous laisse cheminer, avancer à notre rythme. Ce que je ressors de ce passage, c'est que Dieu n'est pas un surveillant d'esclaves qui nous forcerait à avancer alors même que nous ne sommes pas prêts, alors même que notre cœur n'y est pas. Mais chla, un coup de fouet et on y va quand même. Ce n'est pas Dieu. Dieu veut l'adhésion de notre cœur. Et il va cheminer avec nous, avec nos questions, nos réticences, nos objections, etc., jusqu'à ce que nous soyons disposés. La patience de Dieu a des limites, on le voit dans ce texte, mais Dieu nous laisse le temps de cheminer. Il nous laisse le temps d'intégrer les réponses qu'il nous a données à nos questions. Il nous laisse le temps de nous préparer à nous servir. Mais encore faut-il quand même un jour y aller. Et Dieu sait que bien souvent, nous ne sentons pas capables de le servir. Et Dieu connaît toutes nos raisons, toutes nos excuses, les valables et celles qui ne le sont pas. Mais ce que Dieu veut avant notre capacité, avant nos compétences, avant notre éloquence, avant notre assurance, avant que sais-je, ce qu'il veut, c'est notre disponibilité. Et il saura se servir de nous, aussi faibles que nous soyons. L'apôtre Paul écrivait aux Philippiens, « je peux tout, par celui qui me rend puissant. Je peux tout. » Et l'apôtre Pierre écrit au début de sa deuxième lettre, « sa divine puissance, en parlant de Dieu, nous a donné tout, ce qui contribue à la vie et à la piété. » Mes amis, nous avons tout reçu pour nous lever, et marcher à la suite du Christ pour le servir. Nous pouvons tout par Christ qui nous fortifie, nous rend puissants, et Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Que ces vérités fortifient notre foi et renouvellent en chacun de nous le désir de servir Dieu, pas avec les moyens de l'autre, mais avec les moyens que Dieu nous a donnés. Et là où Dieu nous a placés, nous sommes petits, mais Dieu est grand. Amen.